Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 18h à Gabéro, c'est dans la région de Gao. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres. Les avions militaires français sont désormais interdits dans l'espace aérien de l'Algérie. Une décision qui intervient au moment où la France embrouille avec le Mali prévoit d'alléger son dispositif militaire au Mali. De nombreuses localités de la région de Ségou sont sous la menace de présumés djihadistes. Ces derniers temps, le village de Kango serait assiégé par des hommes armés selon des sources locales. Dans certaines facultés, il y a des bacheliers 2019 qui n'ont toujours pas évalué. Selon des responsables de l'AEM, cette situation est due au manque d'infrastructures et au nombre pléthorique d'étudiants. Je suis Hamsetou Touré à la présentation, à la mise en onde, Nouhoum Djiré. Les relations entre Paris et Alger sont tendues ces derniers jours. Cette situation fait suite aux déclarations d'Emmanuel Macron évoquant un système politico-militaire au pouvoir à Alger. Après ces propos, l'Algérie a interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. Une décision qui intervient au moment où la France prévoit d'alléger son dispositif militaire au Mali. Cette brouille des relations entre Paris et Alger a-t-elle des conséquences sur le Mali? Le point avec Ousmane Alibouli.
Les avions militaires français sont désormais interdits dans l'espace aérien de l'Algérie, un passage emprunté souvent par la France pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne où sont déployées les troupes de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Mais selon le colonel Pascal Iani de l'état-major français, cette décision de l'Algérie n'affecte ni les opérations ni les missions de renseignement menées par la France au Sahel. Cette tension entre la France et l'Algérie vient s'ajouter à la situation tandis entre la France et le Mali. Elle intervient au moment où Barkhane revoit son dispositif, en particulier au nord du Mali, frontalier avec l'Algérie. Certains médias annonçaient déjà ce week-end le retrait de Barkhane de Tessalit dans la région de Kidal, une information démentie par la force française. Barkhane poursuit le transfert des emprises du nord selon le calendrier prévu, mais nous n'avons pas encore quitté Tessalit, déclarent les responsables de l'opération. Rappelons que sur décision d'Emmanuel Macron, d'ici 2023, le nombre des militaires français au Sahel va passer de 2500 à 3000 hommes contre plus de 5000 aujourd'hui. La France va ainsi alléger son dispositif militaire à Kidal, Tombouctou et Tessalit.
L'interdiction à la France de survoler l'espace aérien de l'Algérie n'aura pas de grands impacts sur les opérations au Sahel. C'est du moins ce qu'affirment certains observateurs. Au même moment, ils démentent le retrait de la force Barkhane à Tessalit, dans la région de Kidal. Toutefois, ils estiment que les forces présentes sur place sont capables d'assurer la sécurité de la zone, même si les soldats français se retiraient. Serge Daniel est journaliste, écrivain et spécialiste des questions sécuritaires et les gens téléphonent par Aboubakrine Ag Mohamedine Yatara.
Il n'y aura pas de grand impact, c'est-à-dire que le fait d'interdire le survol du territoire algérien ne va pas empêcher les opérations françaises de se dérouler sous le Sahel. Ils vont contourner une partie de l'Algérie, en tout cas pas de conséquences fâcheuses sur les opérations au Sahel. Barkhane ne s'est ni retiré de Tessalit, ni de Tombouctou. Les informations qui circulent sont fausses. Le fait de dire que l'armée française a coupé l'électricité à l'armée malienne, c'est faux. Ce lundi, il sera remis à l'armée malienne par l'armée française, deux groupes électrogènes. La zone de Tessalit est gardée par trois forces, la force Barkhane, qui est une petite unité. Les conséquences du départ de Barkhane, de mon point de vue, ça n'aura pas tellement d'impact.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Une session spéciale de la Cour d'assises a commencé ce lundi 4 octobre 2021 à la Cour d'appel de Bamako. Cette session dédiée uniquement au dossier terroriste va se pencher sur une quarantaine de cas. Elle va prendre fin le 29 octobre prochain, sauf en cas de prorogation, préviennent les juges. Un casque bleu a été tué et quatre autres grièvement blessés samedi passé à Tessalit. C'était suite à l'explosion d'une mine, indique un communiqué de la MINUSMA. Le même jour, une tentative d'assassinat et des braquages ont été enregistrés dans la région de Gao. Le point avec Juliette Koulibaly. C'est un convoi de l'ONU qui a heurté un engin explosif improvisé à Tessalit dans le nord du pays, a annoncé le chef de la MINUSMA dans un tweet. Le bilan est des morts et des blessés, dont des cas graves. Cet incident est un triste rappel du danger permanent que pèse sur nos casques bleus et des sacrifices consentis pour la paix au Mali, a souligné le chef de la mission onusienne, El Gassim Wane. Il a rassuré toutefois que cette attaque lâche ne fait que renforcer la détermination de la MINUSMA à soutenir le Mali et son peuple dans leur quête de paix et de stabilité. Toujours au nord du pays, le même samedi à Gao, des hommes armés non identifiés ont tiré sur un homme dans un véhicule au quartier Aljana Banja. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital. Dans la même journée à Gao, 5 hommes armés ont braqué un commerçant au marché de Djoulabougou. Le coffre-fort et une somme d'argent ont été emportés par les assaillants. Rappelons que cette insécurité est également vécue par les populations du centre du pays. À Ségou, notamment des habitants de certaines localités des cercles de Djabali et Massina fuient les menaces des présumés dits. Au sud du pays aussi, 5 militaires maliens ont perdu la vie dans une embuscade sur l'axe Kaï-Bamako la semaine dernière.
Sur le même sujet, le village de Kango, dans la région de Ségou, serait assiégé par des hommes armés. Selon des sources locales, le village manque de tout, affirme un habitant sous couvert d'anonymat. Toutefois, les autorités de Koumadougou, d'où relève le village de Kango, ne confirment pas cette information, mais précisent qu'il n'y a pas de sécurité. Le point avec Assetou Kanté.
Depuis plus d'un mois, nous vivons dans la piscose totale. Nous ne pouvons mener aucune activité, affirme cet habitant. Selon lui, il est impossible de se faire soigner car l'accès aux centres de santé est occupé par des hommes armés.
Ils sont là il y a à peu près 3 mois. Ils font des tirs soit les matins ou les soirs. Nous sommes inquiets. Nous avons besoin d'aide parce que nous n'avons pas pu cultiver cette année. Il n'y a pas de nourriture ni de foire. Le chemin qui mène au centre de santé le plus proche a été interdit il y a environ un mois. Les AEC qui étaient ici sont tous partis par peur. Si un de tes proches tombe malade, il risque de mourir car il n'y a pas de médecin pour les soigner.
De leur côté, les élus communaux de Koumadougou disent n'avoir reçu aucune information de Kango, mais elles confirment la recrudescence de l'insécurité dans la commune.
Ici, il y a des dozos et des djihadistes. Il y a aussi l'insécurité. Personne n'est venu se réfugier dans la ville de Koumadougou. Ils sont partis soit à Ségou, Markala ou à Dogabou. Il est temps que le gouvernement fasse quelque chose. Nous sommes aussi des citoyens.
En plus de Koumadougou, de nombreuses autres localités de la région de Ségou sont sous la menace des présumés djihadistes ces derniers temps.
Je l'annonçais tantôt dans les titres, près de 40% c'est le taux d'admission au baccalauréat session 2020-2021. Ces nouveaux bacheliers feront face à d'autres défis, estime l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM. Ses responsables regrettent que dans certaines facultés, il y a des bacheliers 2019 qui n'ont toujours pas évalué. Les étudiants, quant à eux, se disent inquiets par rapport à cette situation. Les détails avec Draman Maïga.
Très contente et très heureuse. J'ai eu mon baccalauréat avec une mention.
Je suis très très contente quand même, je l'ai eu.
Si les nouveaux bacheliers sont heureux, tel n'est pas le cas chez certains étudiants. À la faculté des sciences et techniques FST, cette étudiante déplore les perturbations des cours depuis 2 ans et le statu quo à l'université.
J'ai eu mon bac en 2019. De 2019 en 2021, ma promotion se trouve toujours en première année. Nous venons tout juste de terminer avec les sessions.
Les responsables de l'AEM dénoncent le nombre pléthorique des étudiants et le manque d'infrastructures adéquates. Bourama Keïta, président de la commission de contrôle du bureau national de l'AEM.
Confronté à ces problèmes il y a à peu près 3 ans, les nouveaux bacheliers s'ajoutent aux anciens qui n'ont pas encore terminé leur année académique. Il y a des problèmes d'infrastructure. Faire 40% au bac, or qu'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de salle au niveau supérieur.
Que font les autorités scolaires face à cette situation? Pour répondre à cette question, nos tentatives pour les faire réagir ont été vaines.
Les autorités sanitaires du pays ont réceptionné ce lundi 4 octobre 2021 835 200 doses du vaccin chinois Sinovac. Ces vaccins via l'initiative COVAX ont été réceptionnés aujourd'hui par le ministre de la Santé et du Développement social en présence de ses partenaires à l'aéroport international Modibo Keïta.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Plus de 37 personnes ont été interpellées après des affrontements entre pro- et anti-esclavagistes survenus le 29 septembre à Sourubiré, cercle de Bafoulabé. Un calme précaire règne sur place ce lundi 4 octobre. Toutefois, la présidente de la société civile locale dénonce le laxisme des autorités dans le traitement de cette affaire. Elle entend mener d'autres démarches cette semaine pour que justice soit rendue. Elle l'a annoncé lors d'une rencontre de haut niveau avec toutes les couches de la société civile de Bafoulabé ce week-end. Le véhicule d'un commerçant de Koutiala en provenance du Burkina Faso a été attaqué vendredi dernier non loin du carrefour de Karangana, cercle de Yoroso. Le véhicule a été vidé de son contenu. Les assaillants ont détruit les quatre roues du véhicule. Pas de perte en vie humaine, mais une femme a été blessée par balle au cours de l'opération. Les forces armées maliennes dépêchées sur les lieux ont récupéré le véhicule endommagé samedi dernier. À noter que la semaine dernière, au moins deux véhicules ont été attaqués et trois autres braqués et fouillés sur le même tronçon. À présent, nous recevons Mouhamadou Touré dans le studio pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mouhamadou.
Bonsoir Amsetou Gogo Touré.
Quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Comment les populations survivent-elles à l'insécurité au centre du Mali? Et nos invités sont une habitante du centre du Mali qui a requis l'anonymat, Abaka Sambara, coordinateur de Gévive Mopti, Amadou Magraga, chercheur à l'Institut Malien Recherche Action pour la Paix, et Boubacar Tera, chargé de programme à DECAF. Et le débat se fera en langue nationale, Bamanankan.
Merci Mouhamadou et bon débat. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant. La question A. L'accès à un habitat à Bamako devient de plus en plus difficile. Les prix de location sont aussi élevés, c'est du moins ce que déplorent les habitants de la capitale. Ils invitent les autorités à réglementer le secteur immobilier du Mali afin que chacun puisse aspirer à un logement de qualité. Les autorités, quant à elles, estiment que des efforts seront entrepris dans ce sens en commun accord avec les investisseurs immobiliers à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat célébré le 4 octobre. Notre reporter Moussa Malé Sissoko s'est intéressé au sujet. Suivons donc son reportage.
L'accès à un logement décent et au juste prix est une préoccupation majeure des populations. Mais beaucoup d'entre elles dénoncent les difficultés liées à la location.
Souvent, le propriétaire fait des rajouts sans nous consulter. Et ne sont pas en bon état aussi. Pour moi, c'est de fixer un prix au lieu de nous donner des logements sociaux.
Dans les locations, là, il y a trop de problèmes. Les prix sont élevés. Bon, on demande à l'État s'il peut réduire les prix. Ce n'est pas du tout facile.
Je vis en location depuis plus de 20 ans. Actuellement, je peine à payer les loyers à cause notamment du manque d'emploi. Je ne sais plus quoi faire.
Le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat estime que les textes qui réglementent le secteur sont dépassés. Al-Mamoun Ag Mustafa promet que des démarches seront menées en vue de la relecture des textes.
Effectivement, ce secteur mérite d'être encadré. Il mérite d'exiger certaines conditions propriétaires pour pouvoir mettre leur maison en location, mais c'est un travail que nous devons faire en commun accord, nos services techniques, avec les organisations professionnelles telles que les administrateurs des biens immobiliers et agents immobiliers. Donc, c'est l'ensemble des acteurs qui doivent revoir avec l'implication de l'État la réglementation au loyer au Mali.
Cependant, Dr Mamadou Fomba, universitaire et secrétaire principal de la faculté des droits publics, déplore le non-paiement d'impôts sur le revenu foncier par des propriétaires de maisons et d'immeubles.
Il y a un impôt qu'on appelle l'IRF, l'impôt sur le revenu foncier. Lorsque vous donnez votre maison en location, vous devez payer un pourcentage dans le loyer que vous encaissez. Et c'est ce montant-là qui va dans la caisse de la collectivité. Cet impôt-là est prélevé sur la base de 10% pour les maisons en banco et 15% pour les maisons en dur. Et c'est un montant qui doit être payé sur les loyers que les propriétaires encaissent. Mais bien sûr, il y a anarchie en la matière. Mais rien n'empêche les autres d'actualiser ces textes-là. Il faut faire la relecture rapide du texte qui régit les loyers en fonction du mètre carré et en fonction de la valeur de la zone.
L'universitaire ajoute que ce fonds versé par les investisseurs immobiliers à l'État pourrait aider les collectivités à construire des logements pour les populations.